Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Chris Jeffrey-Lenne présente présentement son budget 2024-2025 à la Chambre des communes. Donc, le déficit prévu pour 24-25 est sous la barre des 40 milliards. Ça devrait atteindre 38,9 milliards en 25-26 et en 2028-29. Là, ça devrait plonger, selon les prédictions présentées par la ministre, à 20 milliards. On parle tout de suite à notre ami Pierre-Yves McSween, qui a passé la journée en huis clos à Ottawa pour décortiquer les centaines de pages du budget fédéral. Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, comment on va aller chercher l'argent?
Facile, on va taxer le gain en capital qui dépasse 250 000 $ à un taux d'inclusion plus élevé. Ça veut dire que présentement, Patrick, si tu vends quelque chose et que tu fais un gain, on t'impose sur le 50 % du gain. Maintenant, tout ce qui dépassera 250 000 sera imposé à 66,66 %. Et donc, je te donne un exemple. Disons que tu vends un immeuble 2 millions, que tu as payé 1 million, ben tu as 1 million de gains en capital. Donc, tout ce qui dépassera 250 000 sera imposable aux deux tiers. Et ça augmente les revenus du gouvernement, autant pour les sociétés que pour les particuliers. Et ça génère assez de revenus pour aller chercher l'équivalent de 19 milliards sur 5 ans. Mais Patrick, chose importante.
Ça me semble modeste si au vu du déficit.
Oui, mais ça équivaut aux dépenses supplémentaires qu'on avait annoncées. Donc, 1 plus 1 égale 2. Et c'est au niveau des revenus de société davantage. Donc, ce qui est intéressant pour les premières années, c'est que le gain en capital sera plus imposé dans les sociétés, c'est-à-dire dans les Inc. Vous n'aurez pas le threshold ou la barre de 250 000. Ce sera à partir de zéro que le gain en capital sera plus important. Maintenant, Patrick, on a mis en place d'autres mesures pour compenser ça. On va mettre progressivement en place une réduction de l'imposition du gain en capital pour les entrepreneurs qui sont encore propriétaires de leur business, qui restent en business, qui sont des propriétaires qui travaillent dans l'entreprise. Il y aura un plafond de 200 000 qui va se créer sur 10 ans, qui va permettre aux entrepreneurs d'être imposés seulement à 33 % sur le gain en capital qui dépasse l'exonération qui est déjà 1 million $. C'est beaucoup de chiffres, mais en somme, on prend une personne pour donner un peu à l'autre pour équivaloir tout ça. Et j'aurai une clip tantôt pour toi où Chris Jeffrey-Lenne avoue, après une question que je voulais poser, que j'avais raison. Et ça m'a fait vraiment plaisir.
Tu vas nous parler de ça dans ta chronique tantôt? Ou là?
Oui. Oui, et je peux t'en parler tantôt. Mais là, je vais te parler aussi, Patrick. Je sais que tu es un grand fumeur de Jeannet. Mais il y aura une augmentation aussi de la cartouche de cigarettes. Il y aura aussi des subventions au transport subventionnées. On taxe un petit peu plus le vapotage. Il y a beaucoup de mesures. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement dépense au niveau de la construction de logements. On a compris le message. Et on va se mettre à construire sur des terres de la Couronne, sur des terres qui appartiennent à Post-Canada. On va vider des immeubles fédéraux pour les convertir en logements. Donc, c'est le message en quelques minutes que je peux te donner. Il y aura à Ottawa de la construction et surtout, il y aura de l'imposition de gains en capital d'une façon qu'on n'a pas vue depuis un bout.
Il y a eu un effeuillage, hein? Il y a eu un striptease budgétaire, oui. On le sait, depuis quelques semaines. Pierre-Yves, est-ce que 40 milliards de déficit, c'est ce que tu anticipais?
Ben, en fait, c'était la prévision, mais en faisant attention, il y a un déficit à 48 milliards potentiels si les hypothèses pessimistes se réalisent. Mais ce qui est impressionnant, Patrick, c'est qu'on passe de 40 milliards à 20 milliards de déficit sur 5 ans, mais les revenus augmentent beaucoup plus que ça. Sur la même période, on passe de revenus budgétaires de près de 500 milliards à 586 milliards. C'est-à-dire que le gouvernement pense que sa croissance budgétaire va être proportionnelle à une augmentation des dépenses et qu'on sera pas capable de résorber le déficit davantage. Et on présente beaucoup ça comme, ah, par rapport aux autres pays de l'OCDE, tu sais, c'est correct. Ou bien le ratio dette sur PIB, c'est pas pire, on va finir par atteindre une descente. Mais elle demeure pas moins que le poids de la dette augmente. On voit que le coût de la dette augmente et que le gouvernement fédéral le présente d'une belle façon.
Le présente d'une belle façon, mais semble-t-il que ce budget-là va pas affecter non plus, Pierre-Yves, la cote AAA du Canada auprès des agences de crédit. Ça, c'est-tu un bon baromètre?
C'est un bon baromètre. Ça veut dire qu'on juge que la capacité du gouvernement à générer des impôts puis des revenus puis des taxes est proportionnelle à sa production intérieure brute. Et donc, ça veut dire qu'on dit, comme on se rend dans une pente descendante, si le scénario pessimiste se réalise pas, ben, on est capable de contrôler les dépenses. Et, mais ça, c'est avec, Patrick, des hypothèses économiques qui se maintiennent, une croissance selon les prévisions. Puis aussi, faut pas oublier que faut que le taux directeur baisse, puis les taux en général, pour que le coût de la dette du gouvernement baisse aussi. Parce que tout ça est proportionnel éventuellement.
Merci, Pierre-Yves. On va se reparler à 17h pour le tour de table et pour ta chronique régulière.
À tantôt.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'était l'étude des crédits du ministère de la Santé. C'est un exercice de reddition de comptes annuel. Les députés de l'opposition qui peuvent poser des questions au ministre, et dans ce cas-ci, le critique libéral en matière de santé, André Fortin, a mis un piège à ours devant le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le député de Pontiac pour le Parti libéral du Québec est au bout du fil. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, vous n'êtes pas contenté de poser une question. Vous avez défié le ministre d'essayer d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Expliquez aux gens comment ça s'est passé.
Ben, des fois, c'est un peu simple de poser une question. C'est un peu facile pour des ministres de se sortir du piège à ours, comme vous dites. Alors, on a voulu mettre un fait très clair devant le ministre, c'est-à-dire la difficulté que beaucoup de Québécois ont à avoir un rendez-vous avec leur médecin de famille ou avoir un médecin de famille. Donc, on a tenté l'exercice avec le ministre de prendre un rendez-vous. On a encouragé tous les collègues autour de la table à tenter de prendre un rendez-vous. Le ministre n'a pas accepté notre invitation, mais j'ai quand même fait l'exercice au complet à travers la plateforme Rendez-vous Santé Québec et malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de rendez-vous avec un médecin.
Là, vous avez fait ça en temps réel. Vous parliez au ministre, vous étiez sur votre ordi, puis vous avez tenté d'avoir un rendez-vous via la plateforme RVSQ, le Rendez-vous Santé Québec.
Exact. J'ai sorti ma carte d'assurance maladie. Je suis allé sur le site de Rendez-vous Santé Québec et pour les gens qui ont un médecin de famille, c'est l'endroit où on nous demande par lequel on nous demande de passer pour avoir un rendez-vous avec notre médecin. Alors, la première question qu'on nous pose quelques questions bien simples sur le type d'enjeu qu'on a. Par la suite, on peut voir est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous avec son médecin? Dans mon cas, la réponse a été non. On m'a proposé est-ce que vous voulez avoir un rendez-vous avec un autre professionnel du GMF. Encore une fois, on m'a dit qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible. Et la troisième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous accepteriez d'avoir une consultation avec un autre professionnel dans une autre clinique dans un rayon de 25 km, ce qui, dans mon cas, couvre à peu près toute la ville de Gatineau. Et encore là, ça a été impossible d'avoir un rendez-vous avec un professionnel de santé.
Bien, ce que vous avez démontré, c'est qu'on peut être inscrit dans un GMF, on peut être officiellement sur la liste de patients d'un médecin de famille, puis être dans l'incapacité de le voir.
Ben c'est un peu ça qu'on voulait dire au ministre, parce que souvent il nous dit ah ben vous savez il y a 90% des Québécois qui soit ont un médecin de famille ou sont inscrits au GAP ou au guichet d'accès en première ligne, donc ces gens-là en théorie sont couverts, peuvent avoir un rendez-vous, mais c'est pas si simple que ça. La réponse du ministre à cet exercice-là, ça a été de dire ben vous pouvez passer par le GAP. En réalité, non, parce que le GAP, pour des gens qui ont des médecins de famille, ils nous disent essentiellement « passez par votre médecin de famille ». Alors là, c'est le piège à ours, c'est un peu pour le citoyen là, qui essaie de se retrouver dans ce dédale administratif-là.
Il y a des fois où je vois des politiciens, M. Fortin, là, faire des, appelons ça, des stunts là, en mauvais français, là. Ouais. Puis je trouve ça un petit peu cheap. Dans ce cas-là, Vous avez juste montré ce que le citoyen ordinaire vit avec le système de santé. Qu'est-ce que le ministre a répondu à votre démarche?
Bien, il dit que les choses s'améliorent. Il dit que c'est vrai, il a accepté le fait que ça arrive régulièrement, que les gens ne sont pas capables d'avoir un médecin de famille. Mais la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est une chose de dire on se bute à une porte, on se bute à la porte du guichet d'accès à un médecin de famille, on se bute à la porte du guichet d'accès à la première ligne, mais qu'est-ce qu'on offre à ce citoyen-là? Il y a une des choses qui, il y en avait beaucoup avant, des cliniques sans rendez-vous. C'était peut-être pas toujours simple d'y accéder, mais il y en avait une option pour les gens qui ne pouvaient pas voir leur médecin. Il y en a de moins en moins de ces cliniques-là parce que tout semble porter vers le même modèle, celui du guichet d'accès à la première ligne, là, du GAP, qui est un peu le bébé du ministre. Alors, on est venu dans un sens déshabiller Paul pour habiller Pierre, mais c'est pas plus simple que c'était à voir avec un médecin de famille.
Donc, André Fortin, vous avez interpellé le ministre, vous lui avez dit, regarde, je le fais en temps réel, essayez d'avoir un rendez-vous via le RVSQ, Rendez-vous Santé Québec. Et le ministre vous a suggéré de passer par le GAP, vous l'avez dit, c'est son bébé. Ouais. Vous n'avez pas eu plus de succès?
Ben non, parce que quand quelqu'un qui a un médecin de famille se tourne vers le GAP, il se fait dire, ben désolé, notre recommandation pour vous, c'est de vous tourner vers votre médecin de famille. Alors là, on rentre dans un cercle interminable de, je suis pas capable d'avoir un rendez-vous avec mon médecin de famille, je me tourne vers le GAP me dit, va voir ton médecin de famille, mais le citoyen n'est pas plus avancé à la fin de la journée. Puis c'est ça qu'on voulait dire au ministre, c'est que sa solution un peu unique là, qu'il met de l'avant, c'est-à-dire son guichet d'accès à première ligne, son GAP, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui réussissent pas à avoir un médecin.
Donc, dans une situation où vous auriez été réellement malade, monsieur le député, vous auriez dû aller aux urgences.
Mais c'est un peu ça la conclusion malheureuse de l'exercice. C'est que l'urgence la plus près de chez moi, dans ma situation, là, puis d'autres auraient pu voir dans leur région, c'est qu'en ce moment, il y a 26 heures d'attente à l'urgence. Elle déborde, elle est à 160 % d'occupation. Alors effectivement, on aurait contribué à engorger des urgences pour un problème qui aurait pu être somme toute mineur. La plupart des gens qui veulent avoir un rendez-vous avec notre médecin, leur médecin, n'ont pas besoin d'aller à l'urgence, mais des fois, sont obligés de le faire.
En même temps, M. Fortin, vous êtes député dans la région frontalière de l'Outaouais. Pour y aller à Hawkesbury, on me dit que ça passe très, très vite quand on va à Hawkesbury en Ontario.
Oui, c'est vrai. J'aurais pu aller à Hawkesbury, j'aurais pu aller à Ottawa. Mais comme la plupart des citoyens dans ma région, on paie des taxes et des impôts au Québec, on s'attend à avoir des services au Québec, surtout quand on a déjà un médecin de famille. Puis encore là, l'Ontario, puis ça c'est une réalité dans ma région, là, mais réduit de plus en plus des services qu'ils offrent aux Québécois parce qu'ils ont de la misère à donner des services à leur propre population. Alors ça devient de moins en moins simple ce trajet-là interprovincial.
OK, je veux pas sortir le vieux refrain du « vous avez été au pouvoir, les libéraux, puis vous avez pas fait mieux », mais je vais le faire par la bande, OK? Les libéraux ont essayé de réformer le système, les péquistes ont essayé de réformer le système, les caquistes essaient de réformer le système. Ça se peut-tu que le système a besoin d'être complètement effacé, un peu comme quand notre ordinateur tombe dans une boucle qui est sans fin, il faut faire un « reset ».
Bien, vous avez raison de dire que au fil des ans, au fil des gouvernements, pour beaucoup de monde, ça s'est pas amélioré. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai devant moi un article en ce moment de François Legault, ministre de la Santé, en septembre 2002, qui dit « les urgences malades pourraient ne plus déborder d'ici un an ». Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde qui ont essayé différents trucs avec différents succès. Le message qu'on voulait passer au ministre, c'était pas nécessairement ça, c'était de dire qu'il y a encore des failles dans le système qu'il faut réparer, puis que de fermer des cliniques sans rendez-vous au profit d'autres choses, ben ça enlève une option aux gens.
OK. Au-delà de la partisanerie, M. Fortin, là, Christian Dubé a un plan. Il y a des projets de loi là, qui visent à, disons, nous projeter en avant. Est-ce que vous trouvez que, globalement, oublions l'exécution, là, globalement, est-ce que son plan est bon?
Son plan, il peut fonctionner à certains niveaux, mais il ne fonctionnera pas si on ne réussit pas à attirer davantage de main-d'œuvre. On peut se mettre tous les meilleurs objectifs au monde, on peut changer plusieurs parties du système si on ne réussit pas à attirer plus de travailleurs sociaux, de techniciens, d'infirmières, de préposés, de médecins même dans le réseau de la santé. Ce sont eux qui donnent les services directs à la population. Alors, tout le reste là, ne peut pas fonctionner si on n'a pas ça. Et nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on demande au ministre de la Santé, c'est d'avoir un réel plan de ressources humaines, d'attraction du personnel. Et ça, on ne l'a pas vu encore. Quand on voit que, par exemple, le Nouveau-Brunswick est venu ouvrir un bureau de recrutement des professionnels de la santé à Montréal pour nous shipper un peu nos professionnels, bien, on aimerait avoir une espèce de contre-attaque, un plan aussi agressif pour aller chercher des professionnels là où on peut.
Monsieur Fortin, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
À la prochaine. C'était André Fortin, le député de Pontiac pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de santé. Et je le disais, c'est une sorte de stunt. Oui, des fois, c'est un petit peu... ça peut être mesquin, les stunts en politique. Dans ce cas-là, ça démontrait exactement ce que M. Fortin a fait, ce que le citoyen moyen qui veut un rendez-vous avec un médecin vit, c'est-à-dire très, très souvent, il se frappe à une porte fermée.
Patrick Lagacé en accéléré.
On sait, on est en pleine crise du logement. On manque d'unités d'habitation, que ce soit du locatif, du condo, des maisons de ville, des maisons unifamiliales. Et il y a plusieurs causes à cette crise du logement. Une des causes, c'est qu'on manque de travailleurs dans le secteur de la construction. J'ai pas dit que c'était la cause, mais ça fait partie du problème. Solution proposée aujourd'hui par Québec solidaire, lancer un programme pilote d'immigration permanente pour attirer des candidats à l'immigration dans le secteur de la construction. Gabriel Nadeau-Dubois est le porte-parole de Québec solidaire. Monsieur Nadeau-Dubois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, expliquez-nous votre idée.
Bien, vous l'avez très bien introduite, hein. Il y a une crise du logement et une des causes de la crise du logement, c'est qu'on ne construit pas assez de maisons et de logements au Québec. Et une des raisons pour lesquelles on construit pas assez, c'est qu'on manque de bras. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Il faut recruter des travailleurs, des travailleuses pour construire plus. Ce qu'on propose à la CAQ, c'est de créer une voie rapide pour que des immigrants temporaires qui sont déjà sur le territoire du Québec, des gens qui parlent français, qui veulent travailler, ben, qu'on les encourage à s'engager dans l'industrie de la construction pour avoir par la suite accès de manière accélérée à la résidence permanente au Québec. Des programmes comme ça, on en a fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, on en a fait dans le domaine des préposés aux bénéficiaires parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre dans ce domaine-là. On pense qu'on devrait aussi le faire, donc, pour l'industrie de la construction.
Est-ce que ça a fonctionné pour les préposés aux bénéficiaires? Ça a été un succès?
Ça a été un succès. Ça a permis de recruter, par exemple, de nombreux demandeurs d'asile qui étaient au Québec. Ça les a encouragés à devenir préposés aux bénéficiaires, à donc amener du renfort dans le système de santé. Nous, on veut s'inspirer de ce succès-là, mais de l'appliquer maintenant dans l'industrie de la construction.
Donc, si je comprends bien, là, on est au pays, on est au Québec, on est immigrant temporaire, on parle français.
Exact.
Et là, vous dites, si vous allez suivre une formation en construction, on va vous donner votre résidence permanente?
Exact. Si vous venez travailler pendant 12 mois dans le secteur de la construction, et que vous vous engagez solennellement là, à aller chercher une formation dans le domaine, ben vous allez avoir une voie rapide vers la résidence permanente. Donc, ça crée un incitatif pour que des travailleurs, travailleuses issus de l'immigration se disent « ben moi, je veux m'installer au Québec, je vais aller travailler dans le secteur de la construction. Il nous manque beaucoup de monde en construction en ce moment au Québec. Notre proposition ne permettra pas de régler à elle seule là, la pénurie de main-d'œuvre, mais ça va donner un méchant coup de pouce parce qu'on peut pas se priver de travailleurs, travailleuses en ce moment-là. Il faut construire plus. C'est une urgence nationale. Et pour ça, ben, il faut du renfort.
Pour ceux qui comprennent pas le labyrinthe qui est le processus pour immigrer, là, parce que c'est un labyrinthe,
c'est
la personne immigrante temporaire qui vous écoute, là, qu'est-ce qu'elle gagne à aller faire son cours de construction d'un métier de la construction? En quoi elle accélère son dossier?
Bien, d'abord, ça pourrait être une personne qui est une demandeur d'asile, par exemple, ou une personne qui est un Français qui a un PVT, par exemple, là, qui serait en train de nous écouter. Donc, des gens qui ont un statut, mais qui ont un statut temporaire. Ce que ces gens-là recherchent habituellement, c'est d'avoir leur fameuse résidence permanente, hein, leur fameuse CSQ. C'est un peu l'espèce de Saint Graal que souhaitent obtenir là, les personnes immigrantes parce que ça permet de rester au Québec, de construire sa vie au Québec et c'est ce que les personnes immigrantes veulent. Mais c'est souvent un processus qui est extrêmement long avoir sa résidence permanente. Ça peut prendre un an et demi, ça peut prendre deux ans, c'est compliqué. Nous, ce qu'on propose, c'est une voie rapide, en bon français, un fast track pour que les personnes qui travaillent dans l'industrie de la construction aient un accès plus rapide à la résidence permanente. Autrement dit, on crée comme un incitatif pour les personnes immigrantes à venir travailler dans le domaine de la construction. Ça a marché pour les PAB. On pense que ça peut marcher dans l'industrie de la construction.
Donc, traduction, apprenez à tirer des joints, devenez citoyen plus rapidement?
Grosso modo, c'est ça le projet.
OK. Parfait. Ben écoutez, ça va faire l'objet de débat. Je veux vous amener sur un autre débat, Monsieur Nadeau-Dubois. Vous êtes à la tête, en fait, vous êtes co-porte-parole d'un parti qui est souverainiste. L'autre parti souverainiste, le Parti québécois, parle beaucoup de référendum ces jours-ci. Qu'est-ce que vous pensez de son idée d'un référendum dans un premier mandat s'il gagne en 2026?
Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qu'on propose à Québec solidaire depuis notre fondation. Ce qui me dérange, c'est la manière d'en parler. Je crois que si on veut construire un pays, on va le faire avec un discours qui est positif, avec un discours qui s'appuie sur l'espoir, pas sur le ressentiment. J'ai trouvé le discours de M. Plamondon pessimiste, je l'ai trouvé négatif. Je pense pas que c'est comme ça qu'on va notamment raccrocher les jeunes au projet indépendantiste.
OK. Au-delà des qualificatifs qu'on peut y opposer, vous dites que c'est basé sur la peur, que c'est du ressentiment, parfait, négatif. Est-ce que ce qu'il dit est factuel? Quand il dit, par exemple, que le poids du Québec dans le Canada rétrécit et notre influence, notre pouvoir politique rétrécit d'autant, quand il dit que les communautés francophones hors Québec, ben c'est l'assimilation depuis des décennies, là-dessus, on peut dire que c'est négatif, mais il me semble que c'est factuel.
Je ne demande pas à M. Plamondon de vanter les bienfaits du Canada. Moi, je pense que le Québec devrait être un pays. Je pense qu'on devrait avoir tous nos pouvoirs pour devenir un des pays les plus verts au monde, pour avoir une société de justice sociale. Et oui, aussi pour mieux protéger le français, pour permettre à notre culture de s'épanouir. Et c'est vrai que la nation québécoise, qui est, on le sait, là, une espèce de petite île au milieu d'un océan d'anglophones en Amérique du Nord, cette nation québécoise-là, c'est sûr qu'elle demeure fragile. Son destin n'est pas assuré, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis indépendantiste. Mais de là à donner une date d'expiration à la nation québécoise, de là à dire, si vous ne suivez pas mon plan de match, ben, à partir de 2030, c'est la disparition, je pense qu'il y a une marge, et je pense que c'est pas un discours ça, qui est mobilisant pour la jeunesse. Je pense pas que c'est un discours qui est mobilisant aussi pour les gens qui restent à convaincre de la nécessité de l'indépendance du Québec. C'est un discours qui est défensif, qui est conservateur. Moi, ça ne me rejoint pas et je pense pas que c'est la bonne stratégie pour rassembler les gens, surtout les jeunes, derrière l'indépendance.
Je vous repose la question différemment. Pardonnez-moi d'insister, M. Nadeau-Dubois, mais on peut mettre l'étiquette qu'on veut. C'est parfait, vous trouvez que c'est négatif? Pas de problème avec ça. Dans ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, est-ce qu'il a dit quelque chose qui est faux?
Mais d'abord, vous dites étiquette. Vous m'avez demandé ce que je pense de son discours. Je vous l'ai dit. Pour moi, c'est pas des étiquettes. C'est mon opinion sur le discours qu'il a livré et sur le discours qui, je pense, a le potentiel au Québec de rallier des nouvelles personnes envers l'indépendance. Moi, de dire, par exemple, qu'après 2030, si ce n'est pas le Parti québécois qui est élu et qui fait un référendum, de dire qu'après cette date-là, c'est la disparition assurée, je suis pas d'accord avec ça. L'histoire du Québec, c'est une longue histoire, oui, de lutte, de résilience. Le peuple québécois a eu des hauts, a eu des bas. Son destin demeure incertain. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas de pays, il y a une inquiétude qui est légitime sur l'avenir du français, sur l'avenir de la culture québécoise en Amérique du Nord. Mais de là à dire que notre culture est à l'article de la mort et qu'après 2030, c'est la disparition si on ne suit pas le plan de match du Parti québécois, moi, je ne suis pas là. Je trouve que c'est exagérément catastrophiste comme discours. Regardez, en fin de semaine, la culture québécoise était célébré au Salon du livre de Paris. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire plus pour lutter contre les GAFAM, par exemple, qui sont une menace envers la culture québécoise. Mais de là à parler de disparition après 2030, il y a un pas que moi, je ne franchis pas.
Merci, M. Nadeau-Dubois. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir, M. Lagacé.
C'était Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On le sait, les impacts des changements climatiques frappent toutes les régions. On peut même dire de plus en plus. On peut penser à des inondations, évidemment, mais il y a aussi eu des tornades. Les événements climatiques extrêmes se multiplient et il est urgent de trouver des solutions pour s'adapter à cette réalité-là parce que c'est assez évident qu'on va pas stopper, en tout cas pas dans cette génération, le réchauffement du climat. C'est la raison pour laquelle près de 500 personnes sont réunies aujourd'hui et demain à Montréal pour le deuxième Forum national de l'action climatique. Alain Bourque est directeur général d'Ouranos. Il participe à ce forum et on le reçoit souvent à cette antenne pour expliquer les défis des changements climatiques. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
À quoi ça sert un Forum national de l'action climatique?
En fait, ça sert à mettre dans les mêmes pièces des scientifiques, des gestionnaires, des gens qui développent des politiques publiques, des gens qui travaillent pour des organismes de bassin versant, des municipalités, des scientifiques, des gens en zone côtière, des gens en zone forestière, en zone agricole, etc., les mettre ensemble et justement discuter des solutions optimales pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, naturellement, mais aussi pour apprendre à gérer les risques climatiques qui, comme vous le disiez là, très bien en introduction, sont croissants. Là, on voit de plus en plus d'événements soudains, des aléas météo, des tempêtes, etc. Mais il y a aussi de plus en plus une transformation de fond de nos écosystèmes là qui réagissent à des températures plus chaudes, à des régimes de précipitations différents, etc. Donc, le monde change. En fait, le climat change et donc le monde doit changer aussi.
Donnez-moi un exemple de mesure d'adaptation qu'il va falloir envisager dans nos villes, dans nos campagnes, rapidement.
Ben, je vais donner un exemple concret parce que c'est un peu d'actualité dans le monde municipal, mais le gouvernement du Québec est sur le point d'émettre des nouvelles cartes en lien avec les zones inondables. Alors, c'est clair que ça va mieux cerner les risques dans un contexte de changement climatique, mais du même coup, ça illustre aussi un petit peu le défi d'intégrer l'adaptation dans l'aménagement du territoire, parce que malheureusement, on est en zone de transition. Là, les risques ont tendance à être croissants, mais souvent, on a acheté une maison ou on a mis en place des infrastructures sans nécessairement savoir que c'était à risque, quoique on a quand même construit au cours des dernières décennies dans des zones inondables, donc il y a d'autres personnes qui le savaient qu'ils étaient à risque. Ça fait qu'il y a ce double défi là.
OK. En février dernier, le gouvernement a annoncé là, 500 millions de dollars pour soutenir les villes, les municipalités dans l'adaptation au changement climatique. Est-ce que, tu sais, 500 millions, ça frappe l'imaginaire, M. Bourque, est-ce que c'est assez?
En fait, le monde municipal réclamait 2 milliards. Puis c'est vrai que les investissements faits par les municipalités en matière d'infrastructures, d'aménagement du territoire, des parcs, etc., c'est vrai que c'est des montants importants. Ceci étant dit, je pense que le monde municipal doit aussi payer une partie de la facture. Là. C'est-à-dire il y a beaucoup d'infrastructures qui sont de propriété municipale, donc c'est normal qu'une partie du 2 milliards soit assumée par les municipalités. Mais le 500 millions du gouvernement du Québec pour développer des plans climat qui vont aborder à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation, c'est clairement un très bon montant de départ pour justement intégrer l'adaptation au changement climatique. Et on a aussi décidé de le faire à l'échelle des MRC, ce qui va faire en sorte qu'il y a certaines petites municipalités qui n'ont pas les moyens de faire des plans climat. Donc, en agissant à l'échelle davantage régionale plutôt qu'à l'échelle de chacun des villages, ben, c'est probablement une approche assez stratégique pour pouvoir se préparer aux risques climatiques qui se pointent là.
Les participants à ce forum national là, sur les changements climatiques, sur l'action climatique, pourquoi ils vont là? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre là aujourd'hui et demain?
Ben, premièrement, il essaie de comprendre un peu plus sur le contenu, sur les enjeux, quels sont les risques, etc. Quels sont les outils aussi qu'ils peuvent utiliser, par exemple un aménagiste ou un urbaniste ou même un ingénieur ou un spécialiste en énergie qui veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ben, il vient à ce type d'événement-là pour pouvoir échanger justement des connaissances pour implanter des nouvelles solutions. Donc, il y a beaucoup de réseautage. Naturellement, il y a aussi beaucoup de contenu scientifique. Là, bon, vous connaissez sans doute Pierre-Olivier Pinault qui est en train de présenter puis de parler du défi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même une belle opportunité de voir les gens en adaptation, en réduction des émissions de gaz à effet de serre, Normand Mousseau et tout cela. Donc, de voir quel est l'état des connaissances, l'état aussi des exemples à succès là, qu'il peut avoir sur le terrain pour que ça puisse se dupliquer et se généraliser dans l'ensemble des municipalités, de la société, etc.
OK, donnez-moi des... vous me parlez de mesures qui ont eu du succès, comme quoi, par exemple?
Juste de mémoire, comme ça, là, j'ai vu tout à l'heure une présentation qui montrait comment Hydro-Québec est très en train d'utiliser les lignes de transport d'électricité pour favoriser la biodiversité et le déplacement de la biodiversité des régions plus au sud vers les régions plus au nord. Donc, on appelle ça des initiatives de corridors écologiques qui permet à l'environnement naturel de s'adapter au changement climatique en suivant les corridors. Donc ça, c'est, je trouve, des solutions quand même assez innovantes pour aider les écosystèmes naturels et la biodiversité à s'adapter au changement climatique. Donc, il va y avoir une migration des espèces. Et alors qu'autrefois, Hydro-Québec, ben, quand on était sur les lignes de haute tension, ben, on rasait tout, là, comme si c'était du gazon en banlieue, là. Alors, il y a plusieurs idées innovantes comme ça. Moi, celle d'Hydro-Québec m'a particulièrement frappé récemment.
Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Bourque. Je vous souhaite une bonne journée.
Un plaisir, bonjour.
C'était Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, qui participe à ce Forum national de l'action climatique.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.